Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et j'ai le plaisir de recevoir un habitué de cette émission, c'est Pierre Rigaud. Pierre, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes naturaliste, grand spécialiste de la faune sauvage, notamment de la faune sauvage française. Vous allez nous parler d'un animal que l'on connaît assez peu, dont on parle parfois parce qu'on l'aperçoit ou on croit l'apercevoir. Il est très discret, il s'agit du chat sauvage.
Le chat sauvage ou le chat forestier, c'est oui. Le même. Et alors, il y a plein de confusions entre, par exemple, les chats sauvages ou chats forestiers qui sont une espèce ou une sous-espèce, peu importe comment les scientifiques spécialistes de la génétique les considèrent, mais en tout cas, qui sont bien différents des chats domestiques errants. Et donc, souvent, on pense avoir aperçu un chat dit sauvage dans la nature, en lisière de la forêt, à la campagne, alors qu'il ne s'agit le plus souvent que de chats domestiques qui prennent un peu leurs aises loin des habitations.
En réalité, il n'a pas tout à fait le même gabarit, quand même, le chat forestier par rapport à nos chats domestiques.
C'est un bon gros matou, mais ils ne sont pas non plus gigantesques. Ce qui fait qu'en moyenne, finalement, les chats forestiers et les chats sauvages ne sont pas plus grands, finalement, que des chats domestiques. De bon gabarit, 3-4 kilos pour une femelle, 5 pour un mâle.
Oui, donc effectivement, c'est à peu près le gabarit d'un chat classique.
Et oui, alors ça fait partie justement des difficultés ou parfois des idées reçues qu'on a par rapport aux chats forestiers, parce que, effectivement, historiquement, c'était un petit peu les fauves à éradiquer. Bon, on a les fauves qu'on peut, donc dans les campagnes, c'était les chats sauvages. Et en plus, sur le plan du pelage, sur le plan morphologique, ils ne sont pas toujours faciles à distinguer.
Si alors justement, à quoi ressemble-t-il ?
Alors, un chat de couleur globalement gris, brun, tirant un peu sur le fauve, un petit peu passe-partout en fait, très légèrement moucheté ou tigré, mais très peu. Une queue qui est épaisse, c'est un critère important qui est là, pour le coup assez facile à voir, avec un manchon noir au bout.
Une queue longue, une queue courte ?
Une queue relativement de taille moyenne pour un chat, je dirais. surtout épaisse, ce qui est rarement le cas en fait chez la plupart des chats qu'on aperçoit avec un pelage qui peut ressembler au chat forestier. Et cette queue avec un manchon noir au bout chez le chat forestier, elle a aussi 3-4 anneaux noirs vers l'extrémité. Et puis il y a un critère qui est la ligne noire sur le dos, qui court tout le long du dos, qui fait que quand on a tous ces critères réunis et qu'on est bien sûr qu'au moins on peut exclure la plupart des chats domestiques, disons, eh bien là on est à 99% d'être certain qu'il s'agit d'un chat forestier. Et en plus, si on veut vraiment totalement certain, il faut faire une analyse génétique.
Oui, alors ça va être compliqué. On l'aperçoit dans quelle région en France, ce chat forestier ?
Alors autrefois c'était partout, maintenant c'est essentiellement dans un grand quart nord-est, dans le centre du pays, le massif central, les Pyrénées, puis un petit peu les Pyrénées qui s'étendent vers les plaines du sud-ouest. Donc ça fait une grande diagonale, disons, nord-est-sud-ouest, comme ça. Et peut-être que dans les années ou décennies à venir, ça va s'étendre, puisque la bonne nouvelle...
Vous êtes optimiste, c'est bien ce matin, oui, enfin une bonne nouvelle.
Il faut l'être. Et oui, moi, ça fait franchement partie des choses qui me réjouissent, c'est-à-dire ces animaux, autrefois, étaient très communs partout, dans toutes les campagnes et les forêts européennes. Puis, au fil des siècles et jusqu'au début du XXe siècle, ils ont été vraiment éradiqués parce que c'était considéré comme des nuisibles, des animaux dangereux. On avait peur d'un malheureux chat de 5 kilos. Alors qu'en fait, il n'y avait vraiment aucun problème de cohabitation. Autant, bien sûr, ça peut exister avec des animaux plus grands, mais alors avec les chats, franchement. Mais il y avait comme ça une croyance sur laquelle il fallait éliminer ces dangereux nuisibles. Et donc, ils ont été éradiqués presque partout. Et la chose très positive, et que je trouve très belle d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où, en France comme dans d'autres pays, l'espèce a été classée protégée dans les années 70. À partir de là, il a fallu rien faire de spécial, pas d'opération compliquée, de réintroduction, etc. Juste, on arrête de les piéger, de les tuer au fusil. Et là, peu à peu, ces populations de chats sauvages, chats forestiers, sont revenus. Et donc, il restait quelques secteurs, en France et en Europe en particulier, qui se sont étendus comme ça. Et donc, l'air
naturellement.
Naturellement, juste parce qu'on arrêtait de les persécuter. Et donc, ces chats, peu à peu, regagnent du terrain, si bien que... Maintenant, les populations, par exemple, du Massif central et du nord-est de la France, commencent à être connectées entre elles. Et on peut espérer
c'est
que...
C'est aussi une bonne nouvelle pour le brassage génétique, justement, que des populations comme ça, qui étaient dispersées, arrivent finalement à communiquer.
Absolument. Et bientôt, ça va être pareil entre des populations pyrénéennes qui sont elles-mêmes reliées aux populations ibériques, qui sont en train de se reconnecter avec les populations du Massif central. Donc peut-être que bientôt, dans le nord-ouest de la France Et dans le sud-est, on aura à nouveau des chats sauvages.
Ce chat sauvage, c'est pas sa période de reproduction là en ce moment ?
Et si, enfin c'est
pour ça qu'on en parle aussi.
C'est l'actualité du chat forestier. C'est qu'en effet, janvier-février, encore un petit peu mars, c'est la période du rut. Et puis, alors ça s'étale par contre. C'est pas, ils ont pas, contrairement à d'autres espèces, une période vraiment hyper définie. Mais enfin, c'est globalement la fin de l'hiver et puis le début du printemps, qui est cette période de reproduction. Alors qui se passe à l'écart des yeux des naturalistes ou des observateurs, parce que ce sont des animaux vraiment très farouches, très discrets, ce qui est en fait l'héritage de l'époque où ils étaient persécutés, c'est pour ça qu'on les voit rarement. Donc leurs amours se passent en sous-bois, on voit pas trop, et puis en ce moment, les femelles sont en train de chercher des endroits où elles mettront bas. Et qui peuvent être
ça veut dire qu'elles n'ont qu'une seule portée par an.
Oui,
sauf contrairement au chat domestique qui peut avoir plusieurs portées dans une année.
Exact, exceptionnellement deux portées, mais en général c'est une seule par an, du moins de ce qu'on en sait, parce qu'en fait ils sont tellement difficiles à observer. Alors il y a eu bien sûr quelques études qui ont été faites par radiopistage, on installait des émetteurs sur certains chats pour les suivre, donc on connaît un petit peu leur façon de se déplacer, mais il y a encore pas mal de mystères dans la vie de ces chats. Mais ce qu'on sait, c'est que les portées naissent dans des endroits évidemment très, encore plus discrets que le reste du temps que passent les chats dans la nature, c'est-à-dire sous une souche. Alors on pense souvent que les chats forestiers grimpent, passent beaucoup de temps dans les arbres. C'est vrai, ils grimpent, mais finalement, c'est un peu comme nos chats domestiques. Quelque part, ils sont quand même pas si à l'aise que ça en évoluant dans les branches. Ils savent monter, ils savent descendre, bien sûr. On ne va pas chercher, on n'appelle pas les pompiers pour sauver un chat coincé, un chat forestier.
J'imagine.
Coincé en haut d'un arbre. Mais en fait, ils passent quand même beaucoup de temps au sol. Et d'où l'intérêt d'ailleurs.
Toujours en sous-bois.
En sous-bois ou dans les campagnes, dans les milieux un petit peu plus ouverts. Mais en fait, c'est quand même là qu'ils ont le plus de tranquillité, dans des recoins plutôt isolés, en effet. Et d'où l'importance d'ailleurs d'avoir des forêts qui soient assez riches, avec beaucoup d'arbres morts qui restent au sol, des anfractuosités, des éléments un petit peu naturels où ils peuvent se réfugier.
Pourquoi a-t-on autant traqué ce chat forestier pendant des années ? En quoi est-il en compétition avec l'homme ? Il se nourrit de quoi ?
Ah, il se nourrit essentiellement de micro-mammifères, des petits campagnols.
Donc c'est plutôt pas mal, non ?
Bah, c'est une aide pour les agriculteurs, très clairement. Mais vous savez, ça fait partie de toutes ces croyances de tous ces animaux qui étaient considérés nuisibles. Certains le sont encore. Les renards, finalement, c'est la même chose. Les renards, aujourd'hui, sont encore classés nuisibles. Les chats forestiers ont la chance d'être classés protégés. Les martres, les fouines sont encore classés nuisibles. C'est pareil, ça fait partie de tout ce qu'on appelait la sauvagine. Tous ces animaux, simplement, qu'on n'aimait pas parce que ce sont des prédateurs naturels et qu'on estimait que soit ils étaient dangereux, soit ils portaient concurrence aux humains. Mais concrètement, il n'y a aucune difficulté de cohabitation avec des chats forestiers.
Comment peut-on les observer si on a envie de se lancer sur la piste du chat forestier ? Bon, on a bien compris que c'était compliqué.
Mais ça peut quand même arriver. On s'arme de patience, en fait. Et l'idéal, c'est de faire des affûts. Alors, moi, ce que j'appelle un affût, c'est pas très compliqué. Personnellement, je m'assois sans aucun camouflage en lisière de forêt en fin d'après-midi. On attend que le soir vienne. Et là, en général, les chats forestiers adorent aller chasser sur les prairies, parce qu'il y a beaucoup de campagnols. Donc, ils font comme votre chat dans le jardin ou ailleurs, ils se mettent à l'affût, ces chats-là, en passant du temps comme ça, à attendre que le campagnol sorte de son trou. Donc nous, on se pose à distance, à l'écart, on observe les lisières forestières, ça marche très bien dans le Jura, par exemple.
Faut être loin quand même, j'imagine.
Faut mieux être loin, parce qu'évidemment, si le chat vous voit en général...
Donc une bonne paire de jumelles, un peu de patience, un petit café chaud et...
Un petit café chaud, il faut mieux pas faire de bruit ni bouger, comme pour tous les affûts, mais si vous êtes à distance... Alors souvent ça marche pas, mais franchement on peut faire de magnifiques observations simplement en étant assis tranquillement au coin du bois, quoi.
Eh bien, merci infiniment Pierre Rigaud, vous nous avez embarqué avec vous, là on s'y voyait déjà, la lisière des bois, en train de chercher ce chat forestier.